Wow. J'aime, je vous aime tous. Et je crois que pendant ce court moment que nous passerons ensemble, le Seigneur va bénir chacun de nous. Et il va bénir chaque église dans cette partie de du monde. Nous avons un Dieu absolument merveilleux. Ce petit livre ici, Louange, ou la Louange, je ne peux rien exiger de vous car nous ne sommes pas dans une formation. Mais j'espère que chaque saint dans le recouvrement du Seigneur aura ce petit livre. Et il existe dans beaucoup de langues, notamment, je crois qu'on l'a en français, il n'est peut-être pas encore imprimé. Lisez-le attentivement, avec un esprit exercé, un esprit activé, un cœur ouvert. Et vous vous rendrez compte la grande importance, l'immense importance de la louange. Veuillez noter que c'est Watchman Nee qui a donné ce message. Et il y a un frère qui maintenant habite à Anaheim, en Californie, qui était en prison avec Watchman Nee pendant un certain temps. Watchman Nee, lui, a passé 20 ans en prison. Et ce frère-là avait beaucoup, beaucoup souffert, profondément souffert, dès le son de jeune âge. Il avait une vingtaine d'années, 21 ans, il croyait qu'il allait mourir. Mais quelle que était la situation dans laquelle il se trouvait, dans son être, il louait le Seigneur. Et donc, le Seigneur est sur le trône. Et une des choses qu'il fait depuis le trône, c'est qu'il nous paie chacun de nous personnellement. J'aime beaucoup dire ces choses sur lui, sur le Christ. Il est dans les cieux, il est sur le trône. Nous savons du verset dans le Nouveau Testament que Christ est avec nous. Mais attendez, écoutez, Christ est aussi en vous. Amen. Il est effectivement en vous, à cet instant même, en tant que l'Esprit qui donne la vie. Donc, alors que le Seigneur coule, s'écoule, dans ma portion de cette réunion, et bien en même temps, il va vous éclairer, il va vous paître, il va vous encourager. Amen. Parce que chacun de nous est un membre du corps. Et j'espère que vous allez recevoir une réalisation, vous allez avoir une réalisation très profonde du fait que chacun de vous a une portion de Christ que personne d'autre sur Terre n'a. C'est pour cela que nous passerons près de 30 minutes après le message. Un frère commencera à partager quelque chose et un autre frère terminera, mais il restera quand même beaucoup de temps pour nous tous. Et je vais vous demander, ce n'est pas cependant une exigence, un devoir, je vais vous demander de suivre le sentiment intérieur, la sensation intérieure que vous recevrez à ce moment-là, peu importe sur quelle chaise vous êtes assis. Vous avez chacun de vous une portion de Christ que personne d'autre n'a. Maintenant, le sujet général, louer et vaincre à la fin de cet âge. Amen. Rapidement, vous savez, le Seigneur revient très bientôt, mais on a tous l'impression que Et nous avons tous l'impression que nous sommes à la fin de l'âge présent. Ça fait maintenant 2000 ans hein, environ qu'il est passé. Et il y a quelque chose qui va arriver. Visiblement, Et cela, ces choses visibles que l'on va voir vont nous rendre clair sur le fait qu'à partir de cet instant-là, de cette chose visible, nous aurons 3 ans et demi pour être préparés, pour être enlevés. Sinon, il restera encore 3 ans et demi après ces premières 3 années et demie, et ces 5 qui ne seront pas prêts vont rester dans une situation désagréable. Du côté personnel maintenant. Et je dis cela à vous tous, 5 qui venez de tant de localités différentes. Concernant notre vie chrétienne, il faut que l'on complète quelque chose pour que le Seigneur puisse venir nous enlever. Et j'ai vraiment un souci tendre que chacun de nous ressente profondément que l'heure est venue, que l'âge arrive à sa fin. J'espère que profondément nous ressentirons cela. Je ne parle pas ici d'une pensée, d'une idée, mais d'un sentiment profond, une sensation profonde, j'ai terminé ma course. Un jeune frère, enfin il n'est plus aussi jeune maintenant, mais à chaque fois que je le vois, il sait ce que je lui dis, il reçoit ce que je lui dis, on a de la communion, j'ai de la communion avec ce frère, et je lui dis tout simplement, continue de courir la course. Je lui dis juste ça et il reçoit. Et si vous avez fait des erreurs, j'ai appris beaucoup dans l'Ancien Testament. Ah oui, oui, je suis tombée beaucoup de fois, c'est vrai, j'ai échoué beaucoup de fois, mais je vais me lever et je vais continuer à courir jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis fait cogner dessus, je me suis fait taper, je suis tombée, mais je me relève et je continue de courir. Et nous tous sommes pareils. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que nous avons la puissance de résurrection de Christ dans notre être maintenant même. Et j'aimerais suggérer un verset. Pour quiconque d'entre vous est dans une situation complexe, que ce soit une situation d'ordre physique, et c'est dans Romains 8. Pardon. Romains 8, 11, pardon, j'ai perdu mon micro. Oups. Oh Seigneur. Romains 8, 11. On lit que nous louons et que nous vainquons. Amen. Amen. Romains 8, 11 qui nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous. » Amen. Je vais vous développer sur ce sujet un petit peu plus. Il faut que nous fassions l'expérience du Christ qui habite à l'intérieur de nous. Et il faut que l'on vainque, que nous soyons vainqueurs dans la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'instant présent. Je vais juste lire, mais lire avec l'esprit. Et Dieu est lumière. Et Dieu va nous donner la lumière. À cet instant même, le Seigneur est la lumière, de manière vivante. Et nous savons de 1 Jean qu'en Dieu, nous allons devenir lumière. Nous allons devenir lumière. Et aussi amour. C'est ce que nous dit la Bible. Amen. Ok, grand point sur le plan, le sacrifice de louange. Ceci indique que peut-être souvent, oui, je loue le Seigneur quand je passe un bon moment, quand les choses se passent bien, ou quelque chose m'est arrivé. Et j'ai peut-être fait des erreurs. Excusez-moi, le son est très mauvais, je suis désolée. J'ai du mal à entendre. Mais J'ai des choses qui me sont arrivées, mais la parole m'est venue, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Mais souvent, les saints, on pense que nous louons quand des choses délicieuses nous arrivent. Mais bien sûr, n'ayons pas honte de cela, on doit louer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous sommes jeunes avant d'être mûrs, n'est-ce pas ? Donc, nous louons quand nous sommes heureux, quand les choses se passent bien, c'est un peu normal, c'est la jeunesse. Oh Seigneur Jésus. Excusez-moi, on entend très très mal, c'est terrible. Dans toutes les situations, nous devons louer le Seigneur, apprendre à louer le Seigneur. Il y a un frère qui était dans le recouvrement du Seigneur, il y a déjà... C'était en... Il y a très longtemps, en 1905, je crois qu'il a dit. À cette époque-là, les chrétiens étaient tués partout où ils étaient trouvés. Ils étaient tués, c'était dans un autre pays. Et certains étaient envoyés dans un endroit où ils allaient être mis à mort. Et ce jeune homme, il regardait par la fenêtre là où il habitait. Et il a vu une jeune sœur assise et qui louait le Seigneur, bien qu'elle sache ce qui allait lui arriver. Louer le Seigneur, nous le louons pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Même s'il fait des choses pour vous, peut-être vous avez une certaine maladie. Bien sûr, vous pouvez prier et dire au Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Mais un jour, vous vous rendez peut-être compte, mais il a décidé de ne pas vous guérir. Et il va prendre soin de vous d'une autre manière, en dispensant sa vie de résurrection. Et en conséquence, il y aura un sacrifice de louange à ce moment-là. Vous louerez. Donc, au milieu d'une situation complexe, difficile. Nous allons maintenant passer à cette portion du plan. Et point par point, nous allons traverser cela. Grand A, l'expression la plus excellente de la vie spirituelle d'un saint est la louange à Dieu. Amen. L'expression la plus élevée, la plus excellente dans notre vie spirituelle, c'est la louange à Dieu. Amen. J'ai été encouragée en lisant un des psaumes où David a dit « Je loue le Seigneur, 7 fois par jour je le célèbre. » Et j'ai appris, n'essayez pas d'imiter ce que font les autres. Mais j'espère rencontrer David dans l'âge suivant. J'espère que je n'aurai pas besoin d'attendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et je lui dirai, tu m'as beaucoup aidé, David, avec ce verset, dans Psaume 119, 7 fois par jour. Je te célèbre. Et je voudrais te dire, moi aussi je loue le Seigneur, 47 fois par jour. Amen. Je ne me vante pas, c'est pas ça. C'est ce que fait le Christ qui habite intérieurement. Et je ne serais pas surpris. Juste pour s'amuser quelque part, qu'il y ait un vainqueur, une sœur, un vainqueur, qui me dirait « Mais ça, c'est rien, ça !» C'est pas beaucoup, ça. Moi, je loue le Seigneur 372 fois par jour. Amen. Et finalement, un saint vraiment mûr dira « Je ne peux m'empêcher de toujours le louer. Amen. Il y aura un jour où prier n'est plus nécessaire, n'est plus nécessaire. Et il faut louer, et louer pour toujours. Soyez prêts à louer éternellement. Amen. Petit 1 et petit 2. Le trône de Dieu est le point le plus haut de l'univers. Et pourtant, il siège au milieu des louanges d'Israël. Amen. Le nom de Dieu et Dieu lui-même sont exaltés par la louange. Nous disons « Louons le Seigneur toute notre vie » et nous chantons des louanges à notre Dieu. C'est le point 3. Nous devrions louer le Seigneur toute notre vie. Ce serait merveilleux si demain on vient à la réunion et on dit il y a un nouveau chant pour le Seigneur et c'est juste des louanges. Donc point 3, nous devrions louer le Seigneur toute notre vie et chanter des hymnes de louange à notre Dieu. Grand B, les psaumes contiennent des chapitres sur les sujets des louanges, mais aussi des souffrances. Dieu veut que son peuple sache. Que les louanges sont un sacrifice de louanges et sont merveilleuses au sein de situations très complexes, très difficiles à vivre. Beaucoup de vous, chers saints, traversez des choses. Vous savez que cette parole est pour vous. Vous savez de quoi je parle. Vous souffrez pas juste une seule fois, mais de tant d'autres fois. Vous avez traversé des périodes vraiment très, très difficiles. Mais vous êtes ici assis parce que le Seigneur habite en vous et que vous grandissez dans la vie. Dieu veut que son peuple sache que ceux qui louent le Seigneur, ce sont ceux qui ont été menés au sein de circonstances compliquées. Alors, petit 1, Dieu veut que son peuple sache que ceux qui le louent sont ceux qui ont été menés à traverser des situations éprouvantes et dont les sentiments ont été blessés. 2, dans les psaumes, nous touchons les sentiments les plus blessés qui soient et simultanément les louanges les plus excellentes et grandes qui soient. Si vous me demandez, c'est quoi les louanges les plus excellentes? Je vous dirais peut-être, je ne sais pas encore. J'ai encore besoin de mûrir davantage. Ces louanges aussi sont corporatives. Les louanges les plus excellentes et les plus grandes. Dieu utilise les épreuves, les difficultés et les calomnies pour créer la louange dans son peuple. Une fois, en 2019, il y a un frère qui a donné un message concernant le combat spirituel et la victoire de Christ. Et à la fin, une personne m'a envoyé un email forte qui m'a dit, il a dit, tu ne peux rien faire, tu ne sais rien, et tu ne peux rien faire, tu n'es capable de rien faire. Et ma réponse était, oh voilà une jeune personne qui m'a envoyé ce message. J'ai répondu, effectivement, je n'ai rien, je ne suis rien, et je ne peux rien faire. Mais Christ devient tout. Amen. Ça, ce ne sont pas que des mots. Nous parlons du Christ tout inclusif. Et ce Christ, eh bien, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, toutes les choses naturelles en nous, il les remplace avec lui-même. Il les remplace par le Christ tout inclusif. Amen. « 4. Il leur enseigne, au moyen de circonstances pénibles, à devenir devant le Seigneur des personnes qui le louent. Les louanges de ce genre sont extrêmement agréables à Dieu. Et il les bénit. Amen. C'est agréable à Dieu. There's a lot of static. A lot of static. Yeah. Oh. Le Seigneur peut être vraiment heureux, satisfait. C'est mon nom. J'entends très mal, Seigneur. Oh, si notre vie quotidienne était comme ça, pleine de louanges, c'est extrêmement agréable à Dieu. Et il nous bénit quand nous faisons cela. Nous voulons la bénédiction du Seigneur. Il bénit ceux qui le louent. Dieu désire voir chaque membre de son peuple composer des psaumes et le louer pendant qu'il, entre guillemets, marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, cette louange-là est véritable. Encore une fois, c'est dans le psaume 23, 4, c'est une grande importance ceci. Il y a la louange, nous donnons la louange quand le saint marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Une fois encore, encore et encore, le saint loue le Seigneur de cette manière. Au milieu de nos marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les profondeurs de notre être, au plus profond de nous, nous le louons quand même. Nous le louons toujours. Cela fait honte à l'ennemi. Quelle honte pour lui. Excusez-moi, on n'entend rien. Par sa nature, point 7, la louange est l'offrande d'un sacrifice. Continuons. Nous sommes clairs que le trône de Dieu est établi dans les cieux et est inébranlable. Et nous ne retenons pas nos louanges. C'était le point C. Nous ne retenons pas nos louanges, nous les laissons couler. Alors, on doit en fait renier le moi, vraiment tenir ferme contre le moi, en renonçant au moi pour ne pas retenir les louanges au milieu de ces situations. Parce que ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui loue. On ne retient pas la louange, mais c'est quelque chose qui vient du profond de nous, des louanges au pluriel, n'est-ce pas ? C'est cela, le sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas un ordre. S'il vous plaît, ne prenez pas ces mots-là comme un commandement que je vous donne. Non, c'est louange, c'est un développement qui glorifie le Dieu trinitaire. Et je le répète, cela défait et défait Satan complètement. Et c'est une victoire sur Satan. 2. Dieu désire que ses enfants le louent en toutes choses et au milieu de chaque situation. Grand 2 maintenant. Vaincre l'Église dans l'apostasie, l'Église à Thyatire. Là, nous allons examiner ce qui est mentionné ici. Quand nous arriverons à une certaine partie du message, ce sera sur les points F et G, et nous serons là au centre de l'expérience de cette victoire. Et nous verrons à quel point c'est important et crucial. Mais allons-y, pas à pas, un point après l'autre. Je vous dis, point A, tous ceux qui n'ont pas connu les choses profondes de Satan, Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le terme grec, traduit par choses profondes, dénote les choses qui sont mystérieuses. Il s'agit de choses mystérieuses que nous devrions ignorer. Ces choses-là, profondes, mystérieuses, sont démoniaques. Même dans cette situation religieuse dont on parle ici, l'Église catholique romaine détient de nombreuses doctrines mystérieuses et profondes. Je ne connais pas le nom du frère aux États-Unis, un frère dans une position élevée dans l'Église catholique romaine. Il a été sauvé et il est venu dans le recouvrement du Seigneur. Et il n'est plus parmi nous maintenant, il est décédé, mais je m'attends avec joie de le revoir bientôt. Et on a besoin de vaincre la situation dans l'Église catholique romaine. Il faut vaincre les choses profondes. Seigneur Jésus. La religion de la synagogue au point 4, le monde sous la gouvernance du trône de Satan et la philosophie des mystères sataniques sont tous utilisés par Satan dans le but d'endommager et de corrompre l'Église. Et nous appliquons ceci de manière très subtile. Satan l'applique de manière subtile. Regardez dans Matthieu 16. Il a dit à l'Église, vous vous rappelez quand il a dit que je bâtirai mon Église, et en même temps on voit l'attaque de Satan avec les portes du Hadès, les portes du séjour des morts. Mais nous devons tenir, le Seigneur dit, tenez ferme jusqu'à mon retour, tenez ferme jusqu'à ce que je vienne au verset 25. Regardez Éphésiens, chapitre 6. C'est ce chapitre qui parle du combat spirituel corporatif. L'accent qui est mis, c'est de tenir ferme. Le frère Ni, un petit livret qui a le titre de « Assis, marcher, tenir debout ». Nous sommes assis avec Christ dans les cieux, ça c'est au chapitre 2. Nous marchons avec Christ, ça c'est au chapitre 4. Et ensuite nous tenons ferme avec lui, parce qu'il a gagné la victoire. Et nous tenons donc ferme avec lui et en lui, dans sa victoire. Notre être intérieur a besoin d'être fortifié et nous tenons ferme jusqu'à notre enlèvement. Cela indique que l'Église catholique romaine apostate sera présente jusqu'au retour du Seigneur. Ici, vaincre, c'est vaincre le catholicisme. Amen. 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 Celui qui vaincra, point D, et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Autorité. Là, j'ai besoin de faire une pause sur le sujet de l'autorité. dans la gentillesse et la sagesse du Dieu Trinitaire lui-même. Au printemps de 1966, en octobre, cette année-là, j'étais arrivée dans le recouvrement du Seigneur. Et je me rendais à une certaine réunion pour partager certaines choses sur l'autorité. Et la semaine suivante, il y a des saints merveilleux, une sœur plus âgée que moi et un frère qui était encore plus âgé aussi. Plus mûr que moi, c'est sûr. Ils m'ont dit, frère Ron, il faut vraiment que tu comprennes l'autorité. Et en fait, le point ici, c'est que quand on touche l'autorité de Dieu, c'est comme si vous mettiez votre doigt dans le mur, dans la prise électrique, et vous n'avez plus envie de la toucher parce que ça vous choque. Ça vous fait un choc. Ce n'est pas une doctrine, l'autorité. Cette autorité, souvenez-vous, à la fin de Matthieu 28, le Seigneur s'est révélé. Vous vous rappelez, il s'est révélé aux apôtres sur la montagne, et ensuite il a dit, je suis monté au Seigneur et maintenant j'ai toute l'autorité dans les cieux et sur la terre. Et nous devons apprendre à ce sujet et commencer à nous rendre compte que cela fait aussi partie de notre vie chrétienne, notre expérience chrétienne. Il faut que ce soit clair pour nous. Soyons clairs. Seul Dieu a l'autorité. Il n'y a personne dans le recouvrement du Seigneur qui a de l'autorité. Un frère qui pense que, oh, puisque je suis ancien ici, ou que je prends des responsabilités ici ou là, je suis un homme d'autorité. Pardon. Non. Frères et sœurs, il y a des frères et des sœurs à travers qui l'autorité du Seigneur peut s'exprimer. Mais eux-mêmes, dans leur être, ils n'ont aucune autorité. Il faut qu'on se rende compte de cela. Peut-être ayez de la communion avec l'un d'entre eux, avec des collaborateurs, ou un ancien dans l'Église. Et vous les respectez, bien entendu. Et vous vous rendrez compte, et cette personne aussi, ces frères aussi, « Oh, je n'ai absolument aucune autorité. » Mais peut-être que le sentiment intérieur, c'est que peut-être le Seigneur a organisé, a fait un certain arrangement, de sorte qu'il peut faire couler son autorité à travers vous, ou d'autres saints autour de vous. L'ennemi oui, Satan a de la puissance, mais vous savez, la puissance de Dieu est beaucoup supérieure à celle de Satan. Nous pouvons appliquer l'autorité de Dieu contre l'ennemi, et l'ennemi sait cela. Il est tout à fait au courant. L'autorité de Dieu est supérieure. Vous savez, pendant les 1000 ans, Satan sera dans l'abîme pendant le royaume des 1000 ans. Pendant 1000 ans. Puis il sera libéré pour la dernière bataille et à la fin, il ira à l'étang de feu éternellement. Ça, c'est l'autorité. Il n'y a pas de vote. On ne fait pas un vote. C'est l'autorité. Ce sera une grande aide pour nos chers saints. Sur ce mot, autorité pouvait devenir extrêmement claire pour nous et aussi très réelle pour nous. Et vous pourrez sentir, par exemple, quand vous êtes en communion avec quelqu'un, ou que vous cherchez, vous voulez de la communion avec cette personne? Quelqu'un qui a plus de maturité dans la vie, qui a plus d'expérience. Dans un sens, votre expérience serait de contacter l'autorité dans cette personne-là, dans ce frère. Et le frère lui-même sera clair, je n'ai aucune autorité, je ne suis pas une autorité. Mais ce sont les... C'est par le Seigneur qui m'a travaillé, je peux être juste un canal à travers lequel l'autorité de Dieu peut couler. Avril 1974, à Los Angeles, j'ai commencé à travailler, à collaborer avec le frère Lee. Juste nous deux, pendant les 11 ans qu'on suivit d'ailleurs. Et à chaque fois que l'on s'est mis à travailler ensemble, c'était les jeudis matins. Il prononçait une prière, mais tellement douce, tellement sincère, tellement simple aussi, qui m'a rendu très clair que ce frère était juste un canal. Et il disait, « Seigneur, je suis sous ton autorité. Ce travail, Seigneur, que nous faisons ensemble avec mon frère, c'est sous ton autorité, Seigneur. Amen. J'espère que tous les saints, chaque saint sera ouvert afin que le Seigneur puisse laver toute pensée, toute idée que, oh, puisque c'est moi qui prends les rênes dans cette église-là, puisque moi je fais ces choses-là, j'ai de l'autorité. Non. Que le Seigneur nous soit miséricordieux à chacun de nous. Nous sommes dans l'âge de la grâce. Nous ne voulons pas ce genre d'idée sur nous-mêmes. De penser sur nous-mêmes, je suis ceci ou cela, donc j'ai de l'autorité. Non. Parce que je suis... Moi, vous savez, je suis bien plus âgée que la plupart d'entre vous. Plus de 86 ans. Je suis encore jeune. Je respecte quelqu'un de plus âgé que moi, c'est certain. Mais moi-même et cette personne plus âgée, on réalise, seul Dieu a vraiment l'autorité. Nous n'en avons pas. Et dans l'âge qui viendra, il y aura cette autorité au-dessus de toutes les nations, par-dessus toutes les nations. Regardons les points là-dessous. Petit 1 sous le point D. Régner avec Christ sur les nations pendant le royaume millénaire, et la récompense des vainqueurs. La récompense des vainqueurs. Amen. Il n'y a pas de récompense. Maintenant, pas encore. Et nous devrions rejeter toute pensée qu'il y a une récompense maintenant. Oh, ouais, j'ai l'autorité. Oh. Non. Non, intérieurement, vous devez vous rendre compte. Cette pensée-là, il faut juste la jeter. Vraiment la rejeter. Regardez, régner avec Christ sur les nations, au petit point 1. C'est ce que le Seigneur recherche. Ne voulez-vous pas être vivant dans l'âge suivant? Et être un roi avec Christ pendant 1000 ans? Amen. Bien sûr, j'ai le même espoir que vous, la même espérance. De temps en temps, j'étais pas très sérieux peut-être, mais... Vous savez, mes grands-pères, ils venaient de Finlande. Je me disais quelquefois, oh, peut-être que je serai en Finlande. Ou peut-être que je serai dans cet autre endroit. C'était quand j'étais plus jeune. Et le Seigneur me disait juste, mais arrête de dire des bêtises comme ça. Il n'est pas en colère, il n'était pas en colère, mais il me disait, mais non, mais arrête de penser à ces choses-là. Mais nous sommes en train d'être formés en ce moment à régner avec Christ. Maintenant, nous sommes en formation. Petit 2. Cette promesse du Seigneur indique fortement que ceux qui ne répondent pas à son appel à vaincre, la chrétienté dégradée, ne participeront pas au règne du royaume millénaire. Nous avons de quoi croire qu'il y a des saints dans l'Église catholique romaine. J'en ai rencontré d'ailleurs. Qui ne sentent pas le besoin de quitter ce système, cette situation. Mais je crois vraiment qu'il y a un petit nombre, au moins un petit nombre, qu'il y aura des saints vainqueurs. Il y a des saints vainqueurs dans les dénominations, dans des dénominations diverses. Nous ne devrions pas du tout penser que si quelqu'un n'est pas dans le recouvrement, ils ne seront pas vainqueurs. Ne pensez jamais cela. Nous ne devrions jamais avoir ce point de vue-là. Sur la base du chapitre 12 dans Luc, il y a un passage très important. Il y a les saints donc, qui se tiennent devant le Seigneur au trône. Et la grande majorité pourrait dire « Oh, je ne savais pas. » On ne se cherche pas d'excuses, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Jean 3, 16, moi je croyais que si je suis née de nouveau, je serais dans le ciel, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Et le Seigneur leur dira, je sais que tu ne savais pas. Donc pendant les 1000 ans, cet âge-là, il y aura moins de souffrance pour toi. C'est une souffrance, ce n'est pas une punition. C'est une souffrance qui permettra de faire grandir jusqu'à la maturité. Mais de notre point de vue à nous, d'un côté, nous sommes bénis parce que nous recevons toute cette vérité. Le frère Annie et la frère Annie ont payé un prix énorme pour nous faire connaître la vérité. Donc, on ne peut pas dire au Seigneur, je ne savais pas. Car le Seigneur nous répondra, mais si tu le savais, mais tu n'as pas suivi ces paroles. Donc, il y a deux côtés, il y a vraiment deux facettes, mais ça va ensemble. Personnellement, je remercie vraiment le Seigneur, j'apprécie tellement que je sais ces choses. À travers le ministère de l'âge, j'aimerais mieux savoir que ne pas savoir. Mais maintenant, je me rends aussi compte que j'ai une responsabilité beaucoup plus grande maintenant que des milliers, plus peut-être que des milliers d'autres saints. Et je prie, Seigneur, que ma relation avec toi fait en moi ce que toi seul peux faire. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais tout ce que tu dois faire. Travaille sur moi pour que je puisse être prêt à être enlevé, prêt à l'enlèvement, que je puisse être prêt, préparé à être un roi avec toi. Je te remercie, Seigneur, que tu m'as fait connaître toutes ces choses. Mais maintenant, je me consacre à toi de manière toute fraîche, toute nouvelle, Seigneur, pour que, Seigneur, tu fasses absolument ce que tu as besoin de faire, ce que tu dois me faire traverser, Seigneur, fais-le. C'est le choix aujourd'hui. Il peut faire ce travail sur nous dans les 1000 ans suivants, ou maintenant, pendant notre vie terrestre. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Mais ça, c'est une décision personnelle de chacun de nous. Il faut que ce soit entre nous-mêmes, chacun de nous, et le Dieu Trinitaire, et lui dire, Seigneur, je te remercie de m'avoir appris toutes ces choses. Concernant ton autorité, et concernant être roi avec toi. Et Seigneur, je prends la décision. Je veux atteindre cette situation-là, maintenant. Fais-le, Seigneur. Je m'ouvre à toi, Seigneur. fais tout ce que tu as besoin de faire, Seigneur. Et je voudrais juste ici encourager, chers saints, n'ayez pas peur. Ne craignez pas ce que le Seigneur va préparer. Il y a une certaine crainte. On a peur dans notre être naturel. Mais plus vous permettrez au Seigneur de faire sa demeure dans votre cœur, plus votre réaction, votre réponse, la réponse sera, c'est qu'il y aura sans doute des situations très complexes, très difficiles, vraiment terribles. Je vous assure que le Seigneur me couvre quand je vous dis cela. Il y aura beaucoup de situations. Par exemple, moi j'ai eu récemment des grandes douleurs, terribles douleurs. Et j'ai dit au frère Rick, le docteur, je lui ai dit, s'il te plaît, emmène-moi aux urgences tout de suite. C'est intolérable. La peine, la douleur est juste trop terrible. Donc, il fallait que je... Et j'ai parlé au Seigneur, Seigneur, cette peine, cette douleur, je ne peux pas la supporter, je n'y arrive pas, je n'ai pas la capacité, Seigneur, fais-moi traverser cette épreuve avec toi. On est donc allé aux urgences et ils m'ont dit, nous comprenons la source de cette douleur. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. Il faut que tu aies un quadruple pontage. Et quand j'ai entendu ça, et j'ai eu juste la paix. Parce que si cette douleur n'était pas arrivée, si je n'avais pas eu cette grande douleur qui m'aurait amené au docteur, et si j'avais attendu, eh bien, sans les examens, les tests sanguins, etc., on n'aurait pas découvert l'autre urgence. Il a fallu attendre 3 jours quand même, avoir plus de tests, plus d'examens, pour s'assurer que mon corps physique pouvait supporter la chirurgie. Et le soir avant la chirurgie, on m'a réveillée pour que je prenne ma douche. Et 2 heures après, une autre douche. Ils m'ont emmenée ensuite. Et j'avais une telle paix. Et après, il y a eu un moment de rétablissement sur 48 heures. Et pendant ces 48 heures-là, le Seigneur brillait, illuminait, éclairait les choses qu'il voulait juger, qu'il voulait éliminer. Et tout ce que je disais, c'est Amen. Oui, Seigneur, va plus profond. Et ensuite, immédiatement, sur le côté positif, il y a cette paix et cette joie. Et dans la louange, Amen. J'aimerais vraiment, je préfère vraiment être passé à travers toutes ces choses-là. Et la mémoire, le souvenir de cela n'est pas négatif. C'était une manière pour moi, vraiment une expérience pour apprécier le Dieu trinitaire. Et maintenant, je commence à apprendre que Dieu, vraiment, est Dieu. Je continue d'apprendre. Dieu, vraiment, est Dieu. Il est juste Dieu. Amen. Donc quand on passe à travers toutes ces choses-là et qu'on est ouvert à lui, nous sommes sous son autorité. Et il est vraiment Dieu. Point 2. Je l'ai peut-être déjà lu. Cette promesse du Seigneur indique fortement que ceux qui ne répondent pas à son appel à vaincre la chrétienté dégradée ne participeront pas au règne du royaume millénaire. Amen. Nous avons besoin de répondre à l'appel à vaincre. Amen. Trois, mes œuvres sont les choses que le Seigneur a accomplies et celles qu'il fait encore aujourd'hui. Ces œuvres sont en contraste avec les œuvres de l'Église apostate qui sont faites sous l'influence de Satan. C'était le point 4. Croyez-le ou non, Satan, d'une manière très subtile, est impliqué dans toutes les situations religieuses. Point E. Il les pètera avec une verge de fer. Si vous me posez la question, je vais comprendre. Oui, il va nous pètre. Mais pourquoi avec une verge de fer, un bâton de fer? Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Mais ça montre son autorité ici. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai aussi reçu autorité de mon Père. Là, il faut aussi que je fasse une pause. Et je demande au Seigneur qu'il protège, couvre chacun des saints sur ce qu'ils sont sur le point d'entendre, pour que l'ennemi ne vienne pas vous donner la peur et qu'il ne vienne pas vous attaquer par la peur, la crainte. Mais vous savez, à la fin de son service, le frère Ni, c'est aussi vrai avec le frère Lee aussi, mais frère Ni, il avait un souci profond et pour cette raison, il a donné ces messages-là sur le brisement de l'homme extérieur pour la libération de l'esprit. Et je me souviens, je peux juste vous donner un petit peu la coquille, la chose extérieure, mais je savais que ça devait arriver. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai vraiment besoin de cette expérience. Mais il a fallu que j'apprenne aussi que, Seigneur, autant que tu as choisi et à ta façon à toi de faire les choses. Et en 1982, je me souviens, un jeudi, le soir, bien sûr, on ne peut jamais voir la présence du Seigneur avec nous physiquement, mais il est venu directement à propos d'une requête que j'avais faite. Et le Seigneur sait exactement où il doit aller à l'intérieur de notre cœur ou à l'intérieur de notre âme. Il sait exactement où aller. Mais il sait même traverser les trois parties de notre être. Et en un instant, il a percé. Et je crois, je l'expliquerai un peu plus tard, je crois que des saints très mûrs, comme le frère Lee et sa femme, et je connais une sœur encore, bien plus âgée que moi encore, quand on marchait pour aller chez le frère Lee, voir le frère Lee, elle marchait aussi, je ne disais rien, absolument rien. Cette sœur avait été brisée en morceaux. Ça vous aiderait peut-être d'aller chercher un petit livre si vous ressentez l'impulsion de le faire. Et dites au Seigneur personnellement, Seigneur, je sais que ces choses-là, ce brisement doit arriver à un moment donné, quelque part. Et je te demande, Seigneur, de percer, d'arriver au bout. pendant que je suis encore sur cette terre. Fais-le pendant que je vis sur terre. On a consacré notre corps au Seigneur, n'est-ce pas? Il le sait, n'est-ce pas? Et il sait comment prendre soin de notre esprit, de notre âme, hein, mais aussi de notre cœur. Il sait ce dont on a besoin. Les vases brisés en morceaux. Ainsi que moi-même, j'en ai aussi reçu l'autorité de mon Père. C'était le point E. Petit 1. Dans le royaume des 1000 ans, celui qui règne est un berger. Amen. Chers saints, celui qui est un co-roi, roi avec le Seigneur, règne. Et il sera un berger aussi. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 2 nous aide énormément. Et il habite en nous, il demeure en nous, pour être le berger de nos âmes, le berger de notre âme, pour que l'on puisse se réjouir du Seigneur. Mais en ce qui concerne paître, ça c'est la fonction de chaque saint et de chaque membre du corps de Christ. Il y a vraiment cet aspect-là de notre être. Et si vous réfléchissez au passé, je crois que beaucoup d'entre vous pouvez dire qu'au sein de situations très difficiles, je suis allée trouver un frère, une sœur pour de la communion, car je savais qu'ils avaient eu cette expérience. Et quand je me suis ensuite, je suis partie de leur présence, je me suis rendu compte, oh, ce saint m'a vraiment paix. C'était un berger. Il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas condamné, mais il m'a paix. Amen. Paître. Paître se fait avec un souci tendre envers les saints, parce qu'on comprend le besoin des frères et sœurs et on reçoit la provision pour les approvisionner. Amen. C'est pour cela que dans le royaume qui vient, le royaume futur, nous tous qui régnerons avec lui, eh bien notre règne, ce sera celui d'un berger, comme des bergers, pas avec une verge de fer. Pourquoi ? Parce que les démons, ils auront déjà été mis de côté. Et il y aura une manière de traiter l'ennemi, de l'éliminer. Mais pour les saints, ce sera des soins vraiment doux. Si je n'avais pas reçu les soins de berger, je ne serais pas ici. Je vous ai parlé de l'expérience que j'avais eue du brisement de l'homme extérieur ce jour-là. C'était un jeudi. Et un jeudi, il y avait peut-être 40 frères et sœurs, à peu près frères, pardon. On avait un repas tous ensemble, il y avait eu un partage après. Et un frère qui m'a regardé, il m'a dit, tu n'as plus confiance en toi-même maintenant, n'est-ce pas? Et je crois que ces saints-là, qui sont mûrs, ont prié pour que je sois brisée. Ça, c'est entre eux et Dieu, je ne sais pas, en fait, je ne vais même pas leur poser la question, est-ce qu'ils ont prié pour cela? Mais je me suis rendu compte, je remercie le Seigneur vraiment qu'il y ait eu ce genre de prière faite, parce qu'il connaissait ma situation. Il savait qu'il fallait que ça m'arrive. Pour que je puisse fonctionner selon le désir de Dieu, il fallait que je sois brisée. Et ils ont eu cette prière, ils ont fait ce genre de prière. Voilà, en marge. Hein, en marge, j'ajoute, je parle de prières ici, qui sont des vraies prières. Il y a des prières, entre guillemets, qui ne sont vraiment pas des prières. Mais quand les prières prennent leur source en Dieu lui-même et que vous êtes juste vous le laissez couler à travers vous, on peut absolument vraiment dire à ce moment-là que ces personnes-là sont dans le flot et ils prient selon le besoin du Saint. Seigneur, nous prions, nous demandons, je demande, Seigneur, amène ces frères à travers cela, à travers cette situation. Et je les remercie, je remercie que certains ont prié comme cela. C'était leur façon de me paître, d'une manière invisible, personne n'a vu. Mais ils ont vu ce frère, il est trop fort, il est trop fort en lui-même. Ces frères et sœurs qui ont prié ainsi, ils ne voulaient pas que je sois puni, ils ont juste vu en Christ, dans le Seigneur, que j'avais besoin de ce brisement. Que c'était mon besoin profond. C'est très, très important. Ils ont fait cette prière dans un esprit de berger, avec un soin tout inclusif et tendre, vraiment tendre. Pour cela, il faut vraiment beaucoup d'expérience. Et c'est de cette façon qu'il nous faut paître les uns les autres. Personne n'est au-dessus d'une autre personne. Les bergers sont bergers les uns envers les autres. On a tous besoin d'être bergers les uns envers les autres. Dans le psaume 2.9.2 ici, Dieu donne à Christ l'autorité de régner sur les nations. Ici, Christ donne la même autorité à ses vainqueurs. Il a donc l'autorité. Et dans l'âge suivant, les saints vainqueurs, vont aussi fonctionner avec cette même autorité. Et maintenant, deux points précieux. D'Apocalypse 2:28. Et ensuite, il y aura un verset dans 2 Pierre 1:19. Je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. J'ai réfléchi à cela, cette étoile du matin. Et ce sera peut-être un des messages pendant la formation d'hiver qui portera complètement sur le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Christ sera l'étoile du matin et nous allons devenir l'étoile du matin. Et nous allons voir ce que ça signifie. Lorsqu'il paraîtra la seconde fois, Christ sera l'étoile du matin pour ses vainqueurs qui guettent sa venue. Amen. Nous verrons que l'étoile du matin arrive très très tôt le matin, dans la partie la plus obscure de la nuit, de toute la nuit. Ce n'est pas juste à minuit ou à 2 heures du matin. Il est dit qu'à la fin, ce sera l'heure la plus sombre. Et c'est à ce moment-là, de l'heure la plus sombre, Christ est l'étoile du matin. Et il se révèle comme l'étoile du matin, il se révélera comme l'étoile du matin. Et nous commencerons. Et nous verrons à la fin de cet âge qui sera le temps le plus sombre dans le monde, en tout cas, on voit bien dans le monde. Obscur plus que jamais auparavant. On peut comparer les choses par rapport à même il y a 10 ans. C'est tellement plus sombre maintenant. Et donc, à sa seconde apparition, il paraîtra la seconde fois. Christ sera l'étoile du matin pour ses vainqueurs qui guettent sa venue, intérieurement. On ne sait pas comment il va venir, ni de quelle manière vraiment il va venir, mais notre être intérieur ressentira. Je me souviens quand le frère Lee était jeune et il était en formation par cette sœur plus âgée britannique. S'il n'avait pas été présent, sa sœur, il n'y aurait pas Watchmani, il n'y aurait pas Witness, il n'y aurait pas nous. Quel prix elle a payé, cette sœur? Il y avait un groupe de jeunes messieurs, de jeunes gens, qui ont été sauvés et qui se réunissaient chez elle. Et elle leur enseignait, mais elle les formait également. Ils étaient en formation. Et un par un, ils l'ont quitté, ils sont partis, sauf Watchmani. Et quand elle était sur le point de mourir, il était auprès d'elle. Elle lui a dit, « Je voudrais que tu aies ma Bible. » Et il y a une chose. Il se souvenait qu'ils marchaient un jour tous les deux et elles allaient tourner. Et elle lui disait, « Oh, peut-être qu'on verra le Seigneur au tournant de cette rue. » Elle vivait intérieurement, dans l'attente du retour du Seigneur. Au fond de son être, c'était ainsi. Et je crois que ce désir-là se développe au milieu, dans nous tous, dans les cœurs de beaucoup d'entre nous, en tout cas. Nous voulons vraiment que le Seigneur revienne et qu'il nous enlève. Et en même temps, on prie, Seigneur, rends-nous prêts pendant cette période où je suis en vie sur terre. J'ai déjà mentionné, mais pour moi, je crois que c'est utile dans Matthieu 24 concernant l'enlèvement. Il y a deux hommes dans un champ, l'un est enlevé, l'autre reste. Il y avait deux femmes qui sont en train de moudre le grain, une est prise, l'autre non. Eh bien, il s'agissait tous de frères et sœurs. Mûrs. Mais pourquoi un a été pris et pas l'autre? Et il y a un verset dans 1 Jean, au chapitre 2. Je crois que c'est le verset 28 ou 29. Et qui nous dit que quand le Seigneur revient, on veut pas être embarrassé quand il vient. Nous voulons demeurer, être ceux qui demeurent en lui. Demeurer en lui. Et Jean 15 nous dit, demeurer en lui et lui en nous. Et c'est maintenant. Une partie de ma prière du matin tôt. Seigneur, c'est ta miséricorde et ta grâce. Le Seigneur nous exerçons notre esprit pour demeurer en toi. Et que tu puisses demeurer en moi. Nous voulons donc avoir ces choses qui nous arrivent simultanément. Demeurer une demeure mutuelle. Donc ceux qui guettent sa venue, son retour, à ceux qui s'attendent au retour du Seigneur, il leur apparaîtra en secret, en tant que l'étoile du matin. Avec chacun de nous, j'espère qu'il vient en privé, en secret. Il sait comment avoir une relation tendre avec chacun de nous. Amen. Donc, de cette manière privée, intime, secrète, dans cette rencontre, on se rend compte, Seigneur, tu es l'étoile du matin. On se rend compte et pouf, on sera enlevé. Ce ne serait pas visible encore et ne sera pas encore visible. Son apparition publique viendra plus tard. J'espère que intérieurement, on priera, Seigneur. Nous voulons être prêts, préparés. pour toi comme l'étoile du matin. Seigneur, s'il te plaît, prépare-moi, s'il te plaît, quelle que soit ma situation, Seigneur, prépare-moi. Ensuite, il y a 2 Pierre, 1, 19. Ce verset dit, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. N'est-ce pas un verset tellement précieux? Cela ne s'applique-t-il pas à vous? Prêtez attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne, qu'il vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Je l'applique, ce verset, à nous. Quelle que soit la situation, quelle que soit notre situation, spirituellement parlant, nous ressentons que le jour de l'aube est vraiment proche. L'heure la plus sombre dans le monde entier, c'est maintenant. Mais dans notre être intérieur, nous cherchons l'étoile du matin. Et nous attendons qu'elle se lève dans nos cœurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étoile est dans notre être, en particulier dans notre esprit. Et ensuite, cette étoile du matin doit faire sa demeure dans notre cœur. Le jour qui vient apparaître et l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Amen. C'est une métaphore. C'est l'image de quelque chose. Lorsque nous prêtons attention à la parole des Écritures, c'est le point 2, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, notre état intérieur ressemblera au jour qui paraît, à l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. La condition, l'état intérieur. Il y a besoin d'un état spirituel intérieur dans notre être. Et je crois sincèrement que c'est en train d'être développé en nous. Et maintenant, nous demandons au Seigneur de le développer de manière normale pour que nous puissions, intérieurement, nous pouvons être rendus prêts pour le retour du Seigneur. Seigneur, à cet instant, tu indiques que tu es là parce que nous demeurons en toi et que tu demeures en nous. Nous ressentirons l'aube, que le jour vient. C'est obscur. Comment l'obscurité? L'obscurité, c'est quelque chose d'extérieur, c'est une situation extérieure. Mais le Christ intérieur nous donne un ressenti que le jour approche, que l'aube arrive, l'aube se lève. Et l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs, dans vos cœurs. Ce point est là. Maintenant, mon point de conclusion. Nous connaissons tous bien le verset dans Éphésiens chapitre 3. Christ prie. Et il est en fait à genoux. Et il prie Oh, Paul, pardon, est en prison. Et il prie que Christ fasse sa demeure dans nos cœurs. Donc c'est extrêmement important, chers saints, que dans votre relation avec le Seigneur, jour après jour, dites au Seigneur, je me tourne vers toi, Seigneur. J'applique la puissance de ton sang, Seigneur. J'exerce mon esprit, Seigneur. Je l'active. Je demeure en toi. Et toi, Seigneur, tu vas demeurer en moi. Mais j'ai un désir dans mon cœur, si je puis me permettre. Seigneur, fortifie mon être intérieur, afin que tu puisses faire de mon cœur ta demeure. Installe ton habitation dans mon cœur. Les mots ici dans ces versets sont simples. Sa demeure, son domicile. Domicile, chez lui. Donc dans divers aspects de notre cœur, il y fait sa demeure. C'est différents endroits. Et là, il a besoin d'avoir l'occasion, qu'on lui donne l'occasion, juste de couler jusqu'et d'atteindre chaque partie de notre être. Par exemple, dans nos pensées, notre intellect, notre façon de penser, et certains souvenirs, des mauvais souvenirs, des souvenirs douloureux, de temps en temps, ils reviennent à notre mémoire. Et le Seigneur désire faire sa demeure dans cette partie-là de notre cœur pour nous sauver de certains souvenirs qui sont négatifs en nous. Et il y a des chers saints qui vivent depuis longtemps et ils sont plongés dans des souvenirs. Je me souviens où il y a 20 ou 30 ans, quand on prend une sœur qui m'a dit « Tout va bien, t'inquiète pas pour moi. » Cette dame âgée m'a dit « Je vis par mes mémoires, par mes souvenirs, pardon. » Ça veut dire que dans son cœur, il y avait tous les souvenirs humains. Mais si nous laissons le Seigneur faire sa demeure, son domicile s'installer dans nos cœurs, eh bien, les choses qu'il ne veut pas, dont on se souvienne. Nous, on ne peut pas se forcer soi-même à les oublier, ces choses. Mais Dieu, lui, peut faire ça. Je crois qu'il y a un verset, c'est dans 1 Jean, n'est-ce pas? Qui dit, quand on confesse nos péchés, eh bien Dieu, il pardonne. Et il aussi oublie. Donc lui, il peut oublier. Ça vous est déjà arrivé, vous? Vous vous êtes dit, ah, je vais encore demander pardon, il faut que je lui demande encore pardon sur cette chose que j'ai faite. Et vous le présentez au Seigneur. Moi, ça m'est arrivé. Ça faisait pas très longtemps que j'étais dans la vie d'église. Et le Seigneur me disait, mais de quoi tu parles? C'est comme s'il me disait, mais de quoi tu parles? Parce qu'une fois qu'il pardonne, il oublie. Amen. Et de notre côté, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre à pardonner. C'est en fait de très grande importance. Même si quelqu'un... Par exemple, je connais quelqu'un qui m'a dit « Je suis prêt à pardonner. » Si cette personne venait avec un visage triste et me disait « Oh, je te demande pardon, je lui pardonnerai. » Mais si on a cette attitude-là, le Seigneur en nous dira « Non, pardonne-lui, maintenant. » Le frère Lee a dit une parole très claire sur le sujet. Et il savait que ça allait arriver. Et ça arrivera même dans l'âge prochain. Il y a des saints qu'il connaissait, là, dans l'âge présent, qui venaient lui... Seigneur et qui disent, Seigneur, je me souviens de ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-nous. On se souvient de ce que l'on a fait, pardonne-nous. Et frère Lee dirait, ça fait très longtemps que je vous ai déjà pardonné. Et vous n'aviez pas besoin de venir pour plaider devant moi. Donc vous savez, dans nos cœurs, même dans nos cœurs, de notre côté à nous, sommes-nous disposés à pardonner? Ou alors pensez-vous, bon, si elle vient, si cette personne vient humblement me demander pardon, et ils m'expliquent, me disent bien tout ce qu'ils ont fait, alors je les pardonnerai, j'oublierai la chose. Je suis persuadée que vous préférez que Dieu n'agisse pas comme cela envers vous. Le Seigneur est dans notre cœur. Une fois que toutes les choses auront été clarifiées, notre être intérieur clair, nous ressentirons, oh, l'étoile du matin se lève dans mon cœur. Amen. Et quand il viendra, en un instant, eh bien, l'étoile se lèvera et à cet instant-là, nous serons enlevés. Amen. Voilà ma portion pour vous ce soir, pour ce message. Si vous avez le sentiment de venir, d'abord de prier avec votre voisin une trentaine de secondes, ensuite il y aura un frère ou deux qui donneront une parole de confirmation. Et après, quelle que soit votre langue, n'hésitez pas, venez au micro. Prenez un traducteur avec vous. Mais s'il vous plaît, écoutez surtout le sentiment intérieur pour poursuivre et compléter le message. Prions et ensuite prophétisons. Amen.